Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, lycéen. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Ça. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Cette semaine, dans Univox, Radio Campus Besançon prend les commandes avec au micro Amélie.
Bonjour.
Et avec Alexis.
Bonjour.
Les cours ont repris il y a un mois et les premières soirées et premiers week-ends d'intégration ont été organisés.
Des événements festifs qui cachent parfois des actes de bizutage et de harcèlement scolaire.
D'ailleurs, c'est quoi exactement le bizutage ?
Alors le bizutage, c'est une série de manifestations où les élèves anciens usent et abusent de leur supériorité. Ils vont imposer aux nouveaux arrivants, déjà en état de faiblesse, des épreuves de toute nature auxquelles, dans les faits, ils ne pourront se soustraire sous l'emprise de la pression du groupe et de ce que l'on peut appeler des sanctions en cas de refus, comme l'interdiction d'accès à divers avantages de l'école.
Fin 2018, en Belgique, Sandadia, un jeune étudiant de 20 ans, est décédé à la suite d'un violent bizutage. L'histoire de cet étudiant est revenue au cœur du sujet début septembre, au moment où un collectif demande que justice soit rendue et que soient jugés les auteurs présumés des sévices qui ont conduit à son décès. Parmi les messages d'indignation publiés sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes dénoncent des sanctions trop clémentes, comme la rédaction d'une dissertation.
Le 4 décembre 2018, trois étudiants, dont Sanda Dian, participaient à une forme de baptême afin d'intégrer un cercle d'étudiants exclusivement masculins, les Rezegom. Après avoir bu de grandes quantités d'alcool, les trois étudiants ont été amenés en voiture à Vorselaar, informe la RTBF. Au cours de la soirée, les membres du collectif auraient demandé aux jeunes garçons de rester dans un trou rempli de glaçons et de boire de l'huile de poisson. Les trois étudiants ont ensuite été admis à l'hôpital et c'est là que Sanda Dia est décédée quelques heures plus tard.
Et suite à sa mort, le cercle d'étudiants composé de 18 personnes a été dissous et sanctionné. L'université de Louvain leur a imposé 30 heures de travaux d'intérêt généraux et l'écriture d'un essai sur les rituels de baptême.
Il y a 5 ans, en 2015, Adrien Gorget, un jeune étudiant de 20 ans en 3e année d'école d'ingénieur, s'est suicidé suite à du bizutage et des actes de harcèlement répétés. Depuis, Monique Gorget, sa maman, mène un combat contre ces actes de violence. Elle est la fondatrice de l'association Adrien, une justice pour les étudiants.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Voilà, donc l'association a été créée en septembre 2018, donc suite au suicide d'Adrien lié au harcèlement, bizutage, violence et saccage de sa voiture, mais aussi parce que j'ai fait beaucoup de recherches suite à son décès et j'ai fait des statistiques sur les décès de nos étudiants en école supérieure. Et dans mes statistiques, je me suis rendu compte qu'il y avait 35% d'élèves en école d'ingénieurs qui décédaient suite à des suicides ou alors des morts inexpliquées lors de week-ends d'intégration. Il y avait donc en faculté 9% et en école préparatoire 3%. Donc c'est un chiffre vraiment très très fort. Et nous avons pris rendez-vous avec la ministre de l'enseignement supérieur, Madame Vidal. Et nous avons été reçus par sa responsable santé qui nous expliquait qu'elle mettait une charte en place et que pour participer à cette charte, il fallait qu'on ait une association. Donc ça a été un boost de notre côté pour ouvrir cette association qui a été ouverte très rapidement. Donc maintenant, le combat de l'association, c'est de parler donc de tout ce qui est bizutage, de tout ce qui est le harcèlement qui peut amener au suicide de l'étudiant, de la prise de responsabilité de chacun et c'est de surtout informer et dire qu'un étudiant qui est embêté, bizuté, violenté, il ne faut plus rester un témoin passif parce que malheureusement, on se retrouve avec une victime qui s'imagine être la bête a tué, donc il ne dit plus rien, il attend tout simplement que ça se passe et puis il perd confiance en lui.
Et alors, comment votre association, elle accompagne justement ces jeunes et puis ces familles ?
Alors, l'association donc se déplace auprès des facultés, donc pour faire une prévention en amphi, donc ce que j'ai déjà fait à plusieurs reprises. En faisant des échanges au niveau des tours de table, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une adhésion totale de la part de la direction de l'école. Tant que la direction de l'école ne prendra pas, ne prendra pas une part active à nous aider à viser donc l'omerta qui règne dans leur école, pour prévenir de ce qu'il pourrait éventuellement se passer, eh ben, on n'arrivera jamais à rien. Donc ensuite, quand on parle au niveau des directions, elles se mettent tout de suite derrière le fait que tout est organisé par les bureaux des élèves. Donc c'est sous leur responsabilité et elles ont juste un regard extérieur. Mais l'objectif, c'est maintenant de faire changer cette mentalité. Parce qu'un élève, quand il est élève dans une école, dans une faculté, il est avant tout élève de cette école avant d'être adhérent dans une association étudiantine.
Oui, parce que finalement, c'est de vouloir devenir adhérent à des associations étudiantines aussi qui poussent à ce genre de choses.
Ben, oui et non, parce que quand on regarde donc les week-ends d'intégration, si vous voulez, un élève qui ne va pas s'inscrire à ce fameux week-end d'intégration, ce que Adrien ne voulait pas faire, hein. Adrien ne voulait pas y aller parce que il n'était au courant de rien, il ne savait pas ce qui allait se passer, le lieu géographique n'avait pas été donné, et en plus, il y avait une adhésion pour ce fameux week-end financière qui était aussi un petit peu importante. Adrien étant le fils aîné, nous on pensait vraiment que c'était une intégration pour que tout le monde se connaisse dans une ambiance bon enfant. Malheureusement, les week-ends d'intégration, bien souvent, maintenant je vais parler de quelque chose que je connais par rapport à l'expérience de mon fils. Adrien, il a été bizuté. Le premier bizutage, il a été déjà au niveau de l'école, hein, devant le bâtiment, où les élèves, ils ont été alignés au pied du bâtiment et ils ont été arrosés par des produits de l'air pourri, enfin des œufs, du ketchup, de l'huile, enfin. Et suite à ça, c'était le début du week-end d'intégration. Sur les vidéos, on voit qu'il y a des jeunes qui sont enrubannés avec des films plastiques et puis ils sont canardés par d'autres élèves. Et quand tout ça est terminé, seulement, comme disait Adrien, le vrai week-end commence. Donc là, ils sont mis dans un bus, le téléphone est confisqué, ils ne connaissent pas le lieu de destination et arrivé sur place, ce n'est que beuverie, beuverie, beuverie. Donc Adrien, ne buvant pas, il a très mal supporté l'alcool. Et à partir de là, on peut se poser la question, est-ce que ces week-ends d'intégration ne sont pas là pour chercher le bouc émissaire de la promo pour les 5 années d'études ?
On a une dernière question pour vous, Monique Gorget.
Oui.
Alors, justement, en rapport avec plutôt là votre fils avec Adrien, qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? Est-ce qu'il y a eu un procès ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?
Adrien, de son vivant, a porté plainte. Quand il a porté plainte et que toute la promo et l'école, les élèves, hein, ont été informés, il y a eu un retour de bâton parce qu'Adrien a brisé l'omerta et donc tout le monde s'est mis contre lui. La première chose, ça a été un isolement total, hein, aussi au niveau des groupes de travail, au niveau des associations où on l'a exclu pour des faux prétextes. La direction qu'on prévenait nous répondait qu'Adrien n'allait pas se suicider, ce n'était que de l'enfantillage. Tout le monde a pris ça très à la légère. Et donc, Adrien avait très, très peur des conséquences et de la répercussion suite au procès qui avait lieu normalement le 6 novembre 2015 contre l'élève. qu'il avait tabassé et vandalisé sa voiture. Donc Adrien s'est pendu le 3 octobre 2015 avant son procès. Quand il y a eu le procès, le procureur de la République a demandé un report d'audience à l'année suivante, et Adrien a eu un vrai procès, donc qu'on peut retrouver dans la presse. Hein, si on tape sur la barre Google Adrien Gorget, Monique Gorget, on retrouve l'article de presse. Et Adrien a gagné contre cette étudiante post-mortem sa plainte.
Univox.
On voulait faire un petit rappel avec Alexis. On voulait rappeler que le bizutage, il est contraire à la loi et puni selon l'article 225-16-1 du Code pénal définissant le délit de bizutage. Hors les cas de violence, de menace ou d'atteinte sexuelle, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l'alcool de manière excessive lors de manifestations ou de réunions liées au milieu scolaire, sportif et socio-éducatif est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Monique Gorget avait déjà témoigné auprès de Malika, bénévole pour Radio Campus Grenoble, lors d'un plateau radio nommé Apérophonie sur le harcèlement scolaire en compagnie de plusieurs associations. Malika, que tu as pu avoir au téléphone d'ailleurs, Amélie.
Et oui, Malika Hung est podcasteuse indépendante pour le studio grenoblois d'Hirson et elle a notamment lancé le podcast Belide. Je vous en parle un peu plus après cette pause musicale.
Justement, avant cette pause musicale, on parlait de Malika Hung, bénévole pour Radio Campus Grenoble, et qui justement est podcasteuse, et elle a fait un podcast intitulé Build. Alors, de quoi ça parle exactement ?
Eh bien, ça parle de harcèlement. Donc, ce podcast, enfin, on va dire pour la première saison, c'est une série de portraits de personnes qui parlent de ce qu'ils ont vécu. Elle partage également des témoignages de personnes qui étaient elles-mêmes les bourreaux. Et je lui ai demandé pourquoi elle avait décidé de créer en fait ce podcast.
C'est suite à la Ligue du LOL, donc qui a ciblé le monde du journalisme, et c'était du harcèlement plutôt sexiste envers des femmes journalistes qui s'est passé donc sur Facebook, dans des groupes privés. Et je pense que ça m'a un peu interpellée. Je me suis dit, mais c'était quelque chose de très caché, et quand ça a éclaté, c'était vraiment un scandale. Et je me suis dit qu'effectivement, ça m'a inspiré un peu ce sujet de harcèlement, parce que moi-même aussi, quand j'étais plus jeune, au collège et au lycée, je pense que j'ai dû participer au harcèlement de certaines personnes, sans en être l'initiatrice ou autre, mais j'étais spectatrice, et même parfois je me suis jamais interposée ou opposée. à des situations graves et je pense que c'est possible de changer ça. Et aussi, en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens autour de moi qui avaient pas profité de leur adolescence comme moi. Enfin, moi, j'ai adoré cette période. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient été harcelés, qui avaient été victimes de discrimination, de moquerie, etc. Et que ça les suivait encore à la trentaine. Donc c'est pour ça que ça m'a interpellée et que j'ai voulu faire de rendre compte de ces témoignages de personnes qui sont pas si, qui sont assez nombreuses finalement.
Je vous propose d'écouter un extrait de son podcast Bullied. Ce témoignage donc, est celui de Marie. Et Marie, elle est stigmatisée comme la nouvelle dans tous ses établissements. La jeune femme raconte ce qu'elle a vécu.
C'est quelque chose de vicieux, déjà. C'est pas quelque chose d'évident à prouver, même des années après, d'ailleurs. Surtout parce qu'on on mène sa vie, on passe à autre chose. Donc même là, tu vois, c'est pas un exercice évident que de le définir et de le raconter, parce que c'est vicieux, c'est pernicieux. Et puis c'est aussi un autre aspect, c'est que c'est quotidien, c'est tout le temps, c'est à chaque instant, c'est partout, c'est pas juste dans la salle de classe ou c'est pas juste dans la cour de récré, mais c'est aussi quand on mange ou quand on va aux toilettes ou le moindre, tout le temps.
Et donc je me suis alors demandé si dans les témoignages qu'elle avait recueillis, il y avait des points communs, et il y en a.
Souvent oui, un groupe de personnes assez populaires ou qui sont dans la norme, qui vont exercer une pression ou de l'intimidation ou de la violence, que ce soit physique ou psychologique, envers souvent une seule personne. Et ça c'est très récurrent.
Donc Malika traite des rapports de force et de domination qui s'exercent entre un groupe et une personne ciblée. C'est un schéma plus ou moins similaire au bizutage.
C'est assez frappant de voir que, soi-disant, en fait, les bizutages sont interdits pour les journées d'intégration, etc. D'ailleurs, on a appelé ça différemment. Mais en fait, ça continue toujours. Donc je pense que c'est encore caché et que c'est un grand tabou. Et dans les grandes écoles, c'est des institutions qui sont assez puissantes. Et donc on ose très peu encore remettre en question ces soirées d'intégration où il se passe des choses des fois un peu limites, quoi. Les personnes qui sont spectatrices peuvent agir et dire stop, et en fait complètement renverser les rapports de domination.
Malika propose 10 épisodes dans son podcast Build, donc B-U-2-L-I-E-D, je répète, B-U-2-L-I-E-D, ainsi qu'un bonus. On y retrouve par exemple l'ami bourreau, le stigmatisé intello ou encore l'hypersensible, des portraits d'une trentaine de minutes à retrouver notamment sur la plateforme Ocha.
Univox.
Plusieurs associations existent afin d'aider les victimes de harcèlement scolaire et qui, parallèlement, luttent contre le bizutage, comme SOS Bizutage. Donc pour l'adresse mail, si vous avez de quoi noter, c'est contact@sos-bizutage.com, contact@sos-bizutage.com.
Il y a aussi Non au harcèlement, c'est un service d'appel gratuit au 3020. Il y a aussi, c'est Net d'écoute pour... Net d'écoute pour le cyber harcèlement au 0800 200 000, 0800 200 000, et pour non au harcèlement, le service d'appel gratuit c'est 3020.
Il y a aussi le site internet du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et d'Innovation.
Il existe aussi SOS Amitié, un numéro de prévention au suicide, c'est au 0800 23 13 13, 0800 23 13 13. À noter aussi qu'il existe une journée contre le harcèlement scolaire et cette année elle a lieu le 5 novembre 2020.
Il y a aussi le numéro 0800 711 025, 0800 711 025, qui est un appel gratuit réservé aux élèves et étudiants de l'Académie de Besançon pour les informer sur leurs droits et les conseiller en cas de bizutage.
Bon, alors là, on vous a donné beaucoup de numéros de contact, donc ce qu'on fera, c'est qu'on vous les mettra avec le podcast. Voilà, donc vous pourrez retrouver, que vous pourrez retrouver cet après-midi sur Mixcloud, comme ça vous aurez tous les contacts, tous les numéros et les associations à contacter. Enfin, la dernière, il existe aussi le CNCB, c'est le Comité National contre le Bizutage. C'est une association née en 1997 à l'initiative d'un professeur de philosophie. Par la suite, le CNCB a d'ailleurs participé à l'élaboration de la loi condamnant le bizutage que nous avons citée tout à l'heure dans l'émission. L'association travaille en liaison avec les pouvoirs publics comme le ministère de l'Éducation nationale, recueille de nombreux témoignages et cherche à aider les jeunes et leurs familles confrontées au problème de bizutage. Aujourd'hui, l'association est composée de bénévoles, que ce soit des associations, des fédérations de parents d'élèves, des syndicats étudiants ou d'enseignants.
Et d'ailleurs, Alexis, tu as eu Marie-France Henry au téléphone, qui est membre du CNCB.
Exactement, et d'ailleurs, si vous êtes témoin ou victime de bizutage, vous pouvez directement la contacter. Donc pareil, encore un numéro de téléphone, c'est au 06 07 45 26 11. Au 06 07 45 26 11, il y a aussi un autre numéro, c'est le 06 82 81 40 70. 06 82 81 40 70. Donc pareil, on vous les mettra sur le podcast. Une fois que ces personnes sont contactées, voici donc le déroulé de la procédure.
Donc nous répondons dans toute la mesure du possible chaque fois que nous recevons un appel. On peut aussi nous contacter par mail, nous envoyer un mail pour nous expliquer ce qui s'est passé. Et généralement, si vous voulez, un dialogue s'instaure entre la victime ou sa famille et le CNCB. Et bon, nous ne sommes ni des psychologues, ni des juristes. Donc, ce que nous faisons, c'est écouter, c'est expliquer que ce qui se passe et la façon dont le ressent la victime n'est pas unique. Voilà, c'est généralement, on n'est pas étonné de ce que nous raconte la victime ou sa famille. Voilà, et à partir de là, on voit comment on va pouvoir régler le problème. C'est-à-dire que en général, on appelle l'établissement pour savoir ce qui s'est passé, pour savoir comment il compte gérer le problème et quelles sanctions il compte prendre à l'encontre des auteurs des faits. C'est très important pour la victime parce qu'elle a besoin d'obtenir réparation. On demande aussi à l'établissement de s'engager à ce que la victime puisse poursuivre ses études dans l'établissement sans être ostracisée. D'un autre côté, on communique avec les ministères concernés, on travaille avec eux en bonne entente depuis toujours, et on leur communique les cas dont nous avons connaissance, parce qu'il est important pour eux de savoir ce qui se passe.
En 2019, le CNCB a recensé entre 15 et 20 témoignages. Cette année, malgré les restrictions sanitaires et l'interdiction d'organiser des week-ends et journées d'intégration, Marie-France affirme qu'il y en a quand même. Depuis septembre, le Comité national contre le bizutage comptabilise un témoignage.
Vous savez, c'est malheureusement toujours à peu près le même scénario, c'est-à-dire des actes à base de sexe, hein, c'est-à-dire se dévêtir, montrer ses fesses. Et puis, le deuxième volet, c'est l'alcool. Donc, ça veut dire obliger les nouveaux à boire.
La personne en question était témoin de ces actes de bizutage. Que s'est-il donc passé par la suite?
D'abord, écoutez, c'est très important parce que la victime, elle a besoin, quelque part, de pouvoir mettre des mots sur ce qui s'est passé. Ça, c'est très important. Ça procède de sa reconstruction. Ensuite, on lui a expliqué ce que nous, on allait faire. Et on a appelé l'établissement. J'ai appelé le chef d'établissement. On s'est expliqué. Je lui ai transmis le témoignage. Et à partir de là, ils ont pris les mesures qui sont les mesures que tout chef d'établissement doit prendre lorsqu'il a connaissance d'un cas de bizutage, c'est-à-dire faire un signalement au procureur et puis convoquer les responsables de l'organisation de ce bizutage et convoquer un conseil de discipline et prendre des sanctions. Il y a aussi un volet important, c'est la prévention. c'est-à-dire expliquer pourquoi tout ce qui s'est passé n'est pas acceptable et réfléchir à une nouvelle façon d'accueillir les nouveaux. Parce que accueillir les nouveaux, c'est bien, mais à condition que ce soit tous ensemble. Ça veut dire, dans le bizutage, il y a une logique, c'est un groupe contre un autre. Voilà. Et si on fait tous ensemble, le risque est moindre. C'est très important d'accompagner, parce que on s'aperçoit que, malheureusement, ils n'ont pas toujours conscience de la gravité des actes qu'ils imposent aux nouveaux. Voilà. Ils s'imaginent que, finalement, tout cela n'est pas bien grave. Voilà. Or, c'est à chacun d'entre nous de décider de ce qui est grave pour lui. C'est pas aux autres.
À noter que témoigner n'est pas anodin et est le plus souvent difficile. Marie-France nous en explique les raisons en quelques mots.
Non, c'est très difficile. Et généralement, nous avons, entre guillemets, la chance, c'est que nous répondons pratiquement toujours, vous voyez ce que je veux dire, puisque ce sont des numéros privés. Et au moment où la victime a décidé de parler, il faut être là, parce que sinon, elle risque après de dire non, bah finalement, je vais pas en parler, je vais pas le dire. Puis parfois, elle subit aussi les pressions de sa famille, hein, qui dit ou de ses amis, enfin de son environnement, qui va lui dire écoute, parler, c'est prendre un risque, tu feras mieux de te taire. D'accord, c'est pas bien ce qui s'est passé, mais ne prends pas le risque d'être obligé de quitter l'établissement parce que tu auras parlé. Ou parfois, le jeune, il va le dire à ses parents, mais il a tellement peur que ça se retourne contre lui et qu'il soit obligé de quitter l'établissement ou de subir du harcèlement ou des violences parce qu'il a parlé, qu'il dit à ses parents, je vous le dis, mais je ne veux pas que vous en parliez. Bon, et là, souvent les parents, ils transgressent, ils nous appellent en nous disant, notre fils, notre fille ne sait pas qu'on vous a appelé, faites tout pour qu'on ne sache pas que c'est lui qui a parlé. Voilà. Mmh. Et ça, on respecte toujours l'anonymat de la personne qui nous informe, à la fois dans les établissements, mais même auprès des ministères concernés, qu'on informe des cas de bizutage dont on a connaissance.
L'équipe de bénévoles du Comité national contre le bizutage reste disponible pour les témoins et victimes de bizutage tout au long de la procédure, lorsque les victimes ont obtenu réparation, jusqu'à ce que les victimes aient obtenu réparation, conclut Marie-France.
À noter aussi que d'après une enquête menée par le PEP, donc Fédération d'associations de parents d'élèves, et le FCPE, Fédération des conseils de parents d'élèves, pour le CNCB, en 2013, 71% des sondés étaient d'accord pour dire que le bizutage n'avait pas disparu et 91% pour dire qu'il est inutile.
Univox.
Le bizutage et le harcèlement scolaire dans Univox, proposé par Amélie et Alexis pour Radio Campus Besançon. À la semaine prochaine.